Je vous invite à lire le début de la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Texte proposé pour à la lecture ce matin. Nous lirons donc 1 Thessaloniciens 1, les versets 1 à 7. Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu, le Père, et dans le Seigneur Jésus-Christ, grâce et paix à vous. Nous rendons toujours grâce à Dieu pour vous tous, et nous faisons mention de vous dans nos prières. Continuellement, nous nous souvenons de tout ce qui vous caractérise, l'œuvre de la foi, le travail de l'amour, et la persévérance de l'espérance de notre Seigneur Jésus-Christ devant notre Dieu et Père. Nous savons, frères aimés de Dieu, que vous avez été choisis, car notre bonne nouvelle ne vous est pas arrivée en parole seulement, mais aussi avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. De fait, vous savez comment nous avons été parmi vous pour votre bien. Et vous-même, vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la parole au milieu de beaucoup de détresse, avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants en Macédoine et en Achaïe. Je ne sais pas vous, mais moi ça me ferait plaisir de recevoir une lettre comme ça. Qui commence comme ça, c'est une belle entête de lettre, où l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Thessalonique en leur disant, en fait, vous êtes des chrétiens modèles. On a entendu parler de vous dans toute la région, et votre vie de foi est un modèle. Et l'apôtre Paul dit qu'il se souvient continuellement de ce qui caractérise cette vie des chrétiens de Thessalonique. Ça doit faire plaisir quand même, hein. En sachant que l'apôtre Paul ne va pas toujours avec le dos de la cuillère. Hein, quand il a des choses à dire, il le dit. Et là, il donne vraiment un écho très positif de la foi et de la vie de chrétien des croyants de Thessalonique. Et Paul caractérise ces chrétiens de Thessalonique par ces trois vertus fondamentales que l'on trouve dans le Nouveau Testament, que nous avons déjà évoquées tout au long de ce culte, la foi, l'espérance et l'amour. Ce qui vous caractérise, dit Paul, c'est la foi, l'espérance et l'amour, mais il le dit en associant à ces trois vertus fondamentales trois termes qui éclairent peut-être sous un jour particulier ou nouveau ces trois vertus fondamentales. Il parle de l'œuvre de la foi, du travail de l'amour et de la persévérance de l'espérance. Voilà peut-être une occasion pour nous de revenir à l'essentiel de cette foi, de cette espérance et de cet amour, sous l'angle que nous propose Paul à travers ces trois expressions. L'œuvre de la foi, pour commencer. Et là, quand on y réfléchit, ça peut paraître assez surprenant comme association. L'œuvre de la foi, surtout sous la plume de l'apôtre Paul qui, on le sait, s'est fait le chantre de la justification par la foi sans les œuvres. Il insiste bien sans les œuvres. Ce qui veut dire qu'il ne faudrait pas faire dire à cette expression ce qu'elle ne veut pas dire. Parler de l'œuvre de la foi, ce n'est pas dire que la foi serait une œuvre. Autrement dit, ce serait à nous de faire en sorte d'avoir la foi et de la faire grandir. La foi n'est pas notre œuvre, n'est pas le fruit de nos efforts. C'est pas ce que nous produisons. La foi, c'est bien sûr ce que Dieu met en nous. Mais il y a bien quelque chose qui doit être mis en pratique, mis en œuvre. Ce que dit Paul ici, en parlant de l'œuvre de la foi, sous-entend que la foi véritable, authentique, forte en Jésus-Christ, est une foi qui, d'une manière ou d'une autre, est appelée à se traduire en acte et ne pas en rester à une simple profession de foi. La foi, c'est le préalable, ce que Dieu donne. L'œuvre de la foi, c'est la manifestation nécessaire et logique de la foi. La foi, elle ne se voit pas, mais elle transparaît dans la vie du croyant. Si bien que Paul, en considérant la façon de vivre des chrétiens de Thessalonique, peut parler de l'œuvre de leur foi. D'une foi qui se voit, d'une foi qui se traduit en actes concrets. Une foi qui ne serait que théorique, en parole, abstraite, et qui ne se traduirait pas en actes, serait-ce encore la foi? Et on voit là que finalement l'apôtre Paul, malgré le fait qu'on a voulu les opposer, n'est finalement pas très éloigné de ce que dit l'apôtre Jacques dans son épître lorsqu'il dit « la foi sans les œuvres est morte ». C'est une autre façon de dire que la foi sans les œuvres, sans une façon de vivre, de mettre concrètement en œuvre cette foi, n'est plus vraiment de la foi. Tout au plus une croyance, mais la croyance, ce n'est pas la foi. La foi, bibliquement, c'est d'abord une relation nouvelle avec Dieu, une relation qui change notre regard sur Dieu, une relation qui change notre regard et notre attitude les uns envers les autres et envers notre prochain. Une relation qui nous change profondément, qui transforme notre vie, qui nous fait passer de chenille à papillon, qui fait que notre vie change et que la foi se voit, se manifeste à travers notre façon de vivre. Parler d'œuvre de la foi nous interroge finalement, et on peut se demander, mais au-delà des paroles, au-delà de nos paroles, de nos témoignages, de nos prières, de nos cantiques, au-delà des paroles, est-ce que notre vie témoigne de notre foi? Est-ce qu'on peut dire de nous, dans sa façon de réagir face à cette situation, dans sa façon d'être en relation avec les autres, dans sa manière d'aborder les problèmes de la vie, les épreuves, on voit vraiment qu'il a la foi. On voit l'œuvre de sa foi. Est-ce qu'on peut dire ça de nous? C'est un peu ce que Paul sous-entend pour les chrétiens de Thessalonique. Nous nous souvenons de l'œuvre de votre foi. Autrement dit, de la façon dont votre foi transparaît dans votre vie. La foi. Ensuite, il y a le travail de l'amour. Et là aussi, l'association des deux mots peut paraître étrange. Associer l'amour au travail, c'est pas très glamour. Travail, c'est pénible, hein. C'est l'amour. Et ici, Paul dit le travail de l'amour. Dans la Bible, quand on parle d'amour, vous savez, en fait, on est loin du romantisme et du sentimentalisme. Et dans la Bible, l'amour, ça se travaille. La preuve la plus éclatante, c'est les multiples commandements à l'amour. Au cœur des commandements, et quand on demande à Jésus quel est le plus grand commandement, il dit « tu aimeras Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tu aimeras. Et Jésus qui dit à ses disciples « aimez-vous les uns les autres ». Si l'amour n'est qu'un sentiment ou qu'une histoire d'émotion, comment peut-il y avoir des commandements à aimer? Les sentiments, ça ne se commande pas. Les émotions, on ne les contrôle pas. On les reçoit, on peut essayer un peu de les canaliser, mais enfin, on ne peut pas décider comme ça. Tiens, je vais avoir des sentiments pour cette personne. Ce n'est pas possible. Parce que l'amour, dans la Bible, n'est pas simplement une question de sentiments et d'émotions. L'amour, dans la Bible, c'est aussi une affaire de cœur. Mais il faut bien comprendre ce qu'est le cœur dans la Bible. Pour nous, le cœur, c'est les sentiments, c'est une affaire de cœur. Voilà. Alors que dans la Bible, le cœur, c'est le siège de la volonté. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, c'est toute ta volonté. Selon ce que nous enseigne la Bible, aimer vraiment, c'est choisir d'aimer. Il y a un exercice de la volonté. Et c'est pour cette raison qu'il y a des commandements à aimer. Et c'est pour cette raison que l'amour se travaille. Que ça ne vient pas tout seul. et qu'il faut entretenir cela. C'est ce qu'on dit en général comme conseil aux jeunes couples qui se marient. On dit, votre amour, il faudra l'entretenir, il faudra le travailler. Et c'est vrai, on a raison de le dire, hein. On fait bien de donner ce conseil qui est fondamental. Sinon, si l'amour dans le couple n'est qu'histoire de sentiments et d'émotions, le couple ne va pas durer longtemps. Alors que si l'amour est quelque chose qui se cultive et s'entretient, le couple va pouvoir durer. C'est une des leçons bibliques de l'amour. Mais ce qui est vrai, ce que l'on dit comme conseil aux jeunes couples qui se marient, ne devons-nous pas le dire aussi dans notre amour les uns pour les autres, dans l'Église, entre frères et sœurs, dans notre amour envers le prochain? Ne pas attendre d'avoir envie d'aimer ou d'apprécier quelqu'un pour l'aimer, mais choisir d'aimer. Choisir de s'intéresser à l'autre. Choisir de prendre du temps pour le rencontrer, pour apprendre à le connaître. Choisir d'être disponible. Choisir de se mettre au service de l'autre. Choisir de l'aimer. Est-ce que nous intégrons cette dimension-là de l'amour fraternel, dans l'Église, comme un exercice aussi de notre volonté, de notre décision? Nous voulons nous aimer les uns les autres. Jésus nous y invite, nous donne ce commandement. Alors, travaillons-y. Nous voulons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ça ne viendra pas tout seul. Alors, travaillons-y. Le travail de l'amour caractérisait aussi les chrétiens de l'église de Thessalonique. Cet amour qui ne venait pas tout seul, et l'apôtre Paul reconnaît que les chrétiens de cette région ont travaillé à leur amour, à l'entretenir, à le raviver, à le manifester concrètement. Et puis, j'ai oublié d'avancer, voilà. Le troisième élément, la persévérance de l'espérance. Alors là, on va dire, là c'est plus logique. Autant on avait du mal, peut-être dans un premier temps, à associer l'œuvre et la foi, et puis le travail à l'amour, autant associer persévérance et espérance nous paraît logique. C'est naturel comme association. Mais pour autant, est-ce si évident que cela dans les actes, concrètement? Si l'espérance, c'est le fait de se tourner vers l'avenir, d'attendre quelque chose, il est logique de l'attendre avec persévérance. Mais déjà au premier siècle, les chrétiens s'inquiétaient du fait que le Seigneur tardait à revenir. Ils s'impatientaient du retour du Seigneur. Et je le cite parce que dans cette première aux Thessaloniciens, il y a des échos de cette impatience ou de cette inquiétude. Et l'apôtre Paul doit rassurer les chrétiens qui s'inquiétaient par rapport à cela. Et si on revient même à l'échelle de nos vies, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais il me semble quand même que naturellement, on est plus animé par l'impatience que par la patience. La plupart du temps, on a l'impression que les choses ne vont pas assez vite, ou que le Seigneur ne répond pas assez vite, ou que les choses devraient avancer un peu plus. La persévérance de l'espérance. Si cette association est tout à fait naturelle sur le papier, il me semble que ça l'est beaucoup moins dans nos vies, concrètement. C'est plus compliqué. La persévérance. Ce mot-là, on peut le traduire aussi, peut-être certaines versions le traduisent aussi par endurance. L'endurance de l'espérance. Et l'endurance, vous savez, elle ne nous est pas forcément naturelle. Il faut l'entraîner, s'entraîner pour cela. Si demain, vous allez faire un marathon et que vous n'êtes pas entraîné avant, vous allez être dans un sale état et même pas après 42 km, hein, vous n'allez pas aller jusqu'au bout. Il faut de l'endurance et il faut s'entraîner pour avoir cette endurance. Et cette endurance de l'espérance chrétienne, cette persévérance, elle s'entraîne, on a besoin de l'entraîner. Elle s'apprend. Et on peut dire que souvent, on apprend l'endurance dans les épreuves, en encaissant les coups. D'ailleurs, l'apôtre Paul, ici, dans son introduction à cet épître, parle des chrétiens de Thessalonique qui ont accueilli avec joie la parole, mais dans de nombreuses détresses, dans des épreuves. Et ces épreuves ont forgé leur endurance et leur persévérance. Il ne s'agit pas de chercher les épreuves, vous inquiétez pas, elles vous trouveront sans problème. Les épreuves, on en a tous. De l'adversité, des difficultés. Et sont aussi l'occasion pour nous d'apprendre l'endurance. Une espérance sans persévérance, c'est plus une espérance. C'est peut-être un vague espoir, mais un vague espoir, est-ce que ça peut animer notre vie? Un vague espoir, ça nous mène où? Pas bien loin. Alors qu'une espérance vivante, une espérance vécue dans l'endurance, dans la persévérance, alors cette endurance-là, cette persévérance, cette espérance, elle nous fait avancer. Elle nous permet de rester debout quand on est assailli par les épreuves et les difficultés. Elle nous permet d'avancer contre le vent, contre le courant, de persévérer, de continuer d'avancer. Vivre l'espérance, c'est savoir attendre. Attendre le moment de Dieu. Attendre l'accomplissement du projet de Dieu. Savoir attendre sans pour autant se résigner. L'endurance, c'est pas juste encaisser, c'est continuer d'avancer. Accepter, sans se résigner, d'attendre le temps de Dieu. En fait, c'est cela, être persévérant, simplement. Alors, pour conclure, ces trois vertus de la foi, de l'espérance et de l'amour, ces vertus chrétiennes par excellence, elles étaient incarnées de manière exemplaire chez les chrétiens de Thessalonique. On pourrait se contenter d'en avoir une vision abstraite, la foi, l'espérance, l'amour. Mais les Thessaloniciens ici et ce que Paul en dit nous invitent à en avoir une vision concrète et pratique, à le vivre, à les vivre toutes les trois dans notre vie, concrètement. Et avouons-le, ce n'est pas toujours facile. Il suffit de considérer justement les trois mots que Paul associe à ces trois vertus. L'œuvre, le travail, la persévérance. Ça montre bien que le chemin n'est pas facile. La foi, l'espérance, l'amour sont les conséquences de l'œuvre de Dieu en nous. Ils ne sont pas le fruit de nos propres efforts. Mais il est bon de se souvenir que nous avons quand même notre part à accomplir, pour vivre, pour mettre en pratique ce que Dieu a planté dans notre cœur. Dieu a mis dans notre cœur la foi, il a mis l'espérance, il a mis l'amour. S'il l'a mis dans notre cœur, c'est pour que nous y travaillions, parce que le cœur, c'est le siège de notre volonté. Le Seigneur peut nous y aider, et alors cette foi, cette espérance, cet amour, mis en pratique, vécu dans notre vie, seront autant de témoignages à la gloire de celui qui est l'objet de notre foi, de notre amour et de notre espérance. Amen.